Bonjour à tous. Alors malgré ce qu'on a chanté, je ne suis pas du tout un ministre sacré ni un divin interprète. Le divin interprète, il n'y en a qu'un seul, d'ailleurs, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous explique les choses de Dieu, de l'intérieur. Nous allons parler du fondement de la vie, pour rester dans le thème que nous avons eu avant, à propos de la personne de Jésus. Et je vous invite à lire dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 4, les versets 17 à 22. Matthieu 4, 17 à 22. Dès lors, Jésus commença à proclamer et à dire « Repentez-vous ». Car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, celui qu'on appelle Pierre, et André, son frère, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes, pêcheurs d'humains. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. En allant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques et Zébédée, et Jean, son frère, qui était dans leur bateau, avec Zébédée, leur père, à réparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, ils laissèrent le bateau et leur père, et ils le suivirent. Voilà un texte qui peut nous frapper dans sa sécheresse et son côté brutal. Jésus passe, il voit des personnes qui sont affairées aux choses de la pêche, il en appelle certains qui laissent tout tomber, à l'instant, pour le suivre. Comment cela se fait-il? Jésus arrache à leur famille, ses disciples, par un appel exigeant et impératif. Mais pourquoi le suivent-ils? Et l'on imagine toute une histoire autour, et surtout avant ce récit, pour le rendre un peu plus plausible, pour engommer le côté brutal, pour ne pas dire scandaleux. On imagine que Jésus connaissait déjà ces quatre personnes, Pierre, André, Jacques et Jean. Que ceux-ci connaissaient son message et qu'ils savaient bien ce qu'ils faisaient en le suivant. C'est sans doute vrai, mais le texte ne présente pas les choses ainsi. Et cela risque de nous faire passer à côté de ce qu'il veut peut-être nous dire en étant rédigé ainsi. Jésus appelle donc à le suivre. Il a pour ceux qu'il appelle un projet de vie, devenir pêcheur d'humains. Évidemment, il y a une forme de jeu de mots puisqu'il parle à des pêcheurs de poissons. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'appel de Jésus rejoint les disciples dans leur situation concrète, ici l'exercice du métier de pêcheur, et il les invite à prendre position par rapport à l'environnement dans lequel ils vivent. On ne peut pas suivre Jésus sans se rendre disponible pour lui, et donc sans prendre de la distance par rapport à notre existence présente. La parole de Jésus remet en question nos priorités, nos valeurs, nos choix de vie. Pourquoi le suivre? Serait-ce parce que Jésus a un programme meilleur, plus attirant, plus spirituel, plus quelque chose? Dans le texte, il n'est pas question de cela. Le texte ne donne pas de réponse claire à la question « Pourquoi ont-ils suivi Jésus ainsi en laissant tout tomber ?» En plus, le message de Jésus, tel qu'il est exprimé dans le verset précédent, vous vous rappelez, verset précédent, parce qu'il y a un appel à la repentance et à le suivre, c'est très court. C'est très court. On va dire qu'il a fait une longue prédication pour les convaincre. Jésus commence à proclamer, changez radicalement quand le règne des cieux s'est approché, ou repentez-vous, suivant les autres traductions. Alors pourquoi lâcher ses filets? Pourquoi laisser ses amis et sa famille pour répondre à l'appel de Jésus? À cette question, il me semble qu'il n'y a qu'une seule réponse. Les quatre ont dit oui parce que c'était Jésus lui-même qui les appelait. C'est Jésus qui les appelait. Et c'est ça qui faisait la différence. Pour Pierre, André, Jacques et Jean, il était évident de tout laisser pour le suivre parce que c'était lui. Rien ne permet d'affirmer qu'ils avaient compris ce que signifiait cette expression « pêcheur d'humains ». Jésus ne leur a pas dit, à ce moment-là, vous allez prêcher l'évangile, vous allez même quitter la Palestine pour prêcher l'évangile à des non-juifs, tout ce qui viendra après. Tout ça, ça figure pas dans le texte. C'est juste une expression comme ça. Et on verra bien que, dans la suite de l'évangile, les disciples ont plutôt une compréhension pour le moins limitée du royaume de Dieu. Ils le voyaient comme un royaume terrestre que Jésus établirait après avoir chassé les Romains. Sur bien des points, les évangiles nous montrent que les disciples seront souvent en décalage avec Jésus. Ils sont souvent épatés, surpris, parfois même ils ont peur. Ils sont étonnés à l'effraiement. Et à plusieurs reprises, ils posent cette question qu'on trouve quand Jésus calme la tempête. Mais qui est donc celui-là? Ils n'avaient pas tout compris et ils ont été souvent en décalage. En fait, l'expérience chrétienne apparaît clairement dans l'Évangile chez ses disciples comme une découverte progressive, un cheminement avec Jésus, mais aussi avec les autres disciples, ce qui ne va pas sans provoquer quelques frictions ou même conflits. Dans le cheminement des disciples, il y a la découverte de la bonne nouvelle d'un Dieu accueillant envers tous et toutes sans exception. À travers Jésus, Dieu rencontre les pêcheurs originaires de Galilée comme eux, mais aussi des péagers collaborateurs des Romains, des résistants, qu'on appellerait des terroristes aujourd'hui, des zélotes, des prostituées, des personnes atteintes de diverses maladies et souvent suspectées de diverses fautes pour expliquer leur maladie. Jésus s'adresse aussi à des samaritains hérétiques et même à des non-juifs en souffrance. Jésus oblige ses disciples à élargir leur horizon, à élargir leur manière de penser et leur représentation du monde. Ils ne respectent pas les barrières sociales, religieuses ou politiques qui organisaient la culture juive de l'époque, entre les bons croyants et les pécheurs, entre les juifs et les non-juifs, entre les hommes et les femmes, etc., etc. Mais Jésus s'adresse à tous et il parle de l'amour du prochain, quel qu'il soit, y compris l'ennemi. Il parle de justice, de pureté, de respect des femmes par le rejet de la réputation, du refus de la violence et du mensonge, etc., etc. Il enseigne, mais surtout il vit avec eux, avec ses disciples. Il vit ensemble avec ses disciples et dans cette vie commune, il montre que ce qu'il enseigne, il le vit aussi. Il le vit aussi. Jésus parle de Dieu comme d'un père accueillant, bien éloigné de l'enseignement officiel de l'époque. Il parle de lui aussi, de sa personne, de sa proximité unique avec Dieu, de sa mission. Jésus se présente à un moment dans le cheminement comme la personne la plus importante pour les disciples et de la nécessité de lui accorder la place centrale dans leur vie, même par rapport à leurs proches, à leur famille. Jésus va jusqu'à dire, dans Matthieu 10, c'est 34-38, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Pourquoi? Parce que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » C'est gonflé de dire ça. C'est gonflé de dire ça. Si quelqu'un d'autre que Jésus vous dit ça, l'écoutez pas d'ailleurs. L'écoutez pas. Les apôtres ont pris ça au sérieux parce que c'était Jésus qui prononçait ces paroles et que ça faisait des mois qu'ils marchaient avec lui et qu'ils avaient appris à le connaître. Donc pour eux, c'était beaucoup moins scandaleux. Mais Jésus n'a pas commencé à dire ça dans Matthieu 4, sinon ils auraient eu du mal à le comprendre. Ils ont découvert qu'à travers Jésus, d'abord c'est Dieu lui-même qui parle. Et que la relation à Dieu est la plus importante des relations. Elle est prioritaire même sur les relations familiales. Non pas que Jésus s'amuse à diviser les familles et à arracher ses disciples à toute autre relation. Loin de là, bien au contraire. Après la prise de distance, Jésus nous renvoie à nos proches, à nos familles, mais il nous renvoie différents. La vie de disciple, ça ne va pas de soi. Il y a des moments de doute, il y a des moments de questions. Il y a même des moments de rupture. Comme dans un texte de Jean au chapitre 6, que je vous invite à lire, où il est écrit « Plusieurs disciples de Jésus, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Rupture. Ils quittent Jésus, ils quittent la suivance de Jésus, ils quittent les groupes des disciples. Le texte se poursuit, Jésus dit aux 12, « Et vous, vous ne voulez pas aussi, vous vous en allez ?» Simon-Pierre répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Pourquoi les 12 sont-ils restés ? Ont-ils mieux compris l'enseignement de Jésus ? Ce n'est pas ce que le texte dit. La réponse de Pierre dit simplement la confiance qu'ils ont en Jésus. Confiance qui s'est construite au fil du temps. D'abord, ils ont cru. Mais après, ils ont connu aussi. Vous voyez ? Au début, on découvre l'Évangile. Puis après, au fil du temps, on se rend compte à quel point c'est vrai. Par expérience, par cheminement. Et notre foi se modifie. Elle n'est plus la même qu'au début. Ils ont cru, puis ils ont connu. Ils ont découvert par expérience que Jésus a les paroles de la vie éternelle. La vie éternelle, ici, ce n'est pas juste la vie après, la mort. C'est une vie plus large, plus riche que la vie qu'ils avaient avant. Une vie aux dimensions nettement agrandies. Et donc, même s'ils ne comprennent pas tout, même si Jésus a des exigences qui peuvent paraître impossibles au départ, comme l'amour des ennemis ou le refus de la violence, même si les paroles que Jésus vient de prononcer dans Jean 6 étaient des paroles dures, ils continuent parce que c'est Jésus. Les uns quittent à cause des paroles dures, les autres en restent parce que c'est Jésus qui a les paroles de la vie éternelle, ils l'ont cru et ils le savent. C'est la relation Jésus qui fait la différence. La vie de disciples à la suite de Jésus est faite de surprises, pas toujours agréables. Les disciples ont protesté quand Jésus leur a dit qu'il était contre la répudiation des femmes. Vous vous rappelez ? Ils ont dit « ça ne vaut pas le coup de se marier » à ce compte-là. Ils ont été surpris de bien d'autres manières encore. Cette vie de disciple, c'est aussi faite d'approfondissement de la relation avec Jésus, d'apprentissage à vivre avec les autres disciples, ce qui a été chaud parfois. Une marche faite de choix, toujours à confirmer. Car même si Jésus appelle à le suivre, il n'oublie personne. Et il faut toujours à nouveau choisir de le suivre pour aller de l'avant. Et les circonstances de la vie font que ce choix, on le confirme ou pas. Mais redisons-le, ce qui pour les disciples est déterminant dans l'Évangile, c'est la relation à Jésus. La foi est d'abord cette confiance en Jésus qui fait qu'on le suit, même si parfois on ne sait pas trop où on va, même si parfois on se pose des questions. Il y a un beau texte où l'apôtre Pierre dit à Jésus, « Nous avons tout laissé pour te suivre, qu'est-ce qui va nous arriver ?» On ne sait pas s'il flippait à ce moment-là ou pas, mais la question se posait. C'est bien juste après l'épisode du jeune homme riche, où le jeune homme riche partit tout triste, parce qu'il n'avait pas voulu donner tous ses biens, etc. Et Pierre, il dit, et nous, on a tout quitté, on a tout lâché, qu'est-ce qui va nous arriver ? Oui, c'était pas confort, c'était pas... Parfois, il y a des questions qui ne sont pas très évidentes, du stress. Mais la confiance en Jésus est restée déterminante, une confiance qui fait qu'ils se sont accrochés à lui, à sa personne. Aujourd'hui, nous ne voyons pas Jésus comme les disciples en Palestine. Il est là, lui, le ressuscité, dans cette pièce, aussi présent à nous aujourd'hui qu'à l'époque de Pierre et de Jean, mais nous ne le voyons pas. Le ressuscité aussi nous appelle à le suivre pour une vie vécue en communion avec lui, comme les disciples. Sauf qu'on n'a plus de contact direct visuel par nos sens. Mais nous avons des ressources. D'abord les Écritures qui nous témoignent de lui, qui nous témoignent de sa parole, de ses faits, qui nous témoignent de son amour, de sa façon remarquable de conduire et d'aimer ses disciples. Nous avons l'Esprit Saint qui nous fait vivre individuellement et collectivement de la vie du ressuscité. L'Esprit Saint fait vivre en nous la vie de Jésus. C'est par l'œuvre de l'Esprit que nous pouvons construire et vivre sur le fondement qui est le Christ. Et puis, nous sommes en Église, nous ne sommes pas tout seuls. À travers les uns et les autres, est-ce que c'est assez marrant, parce que le texte aussi dans 1 Corinthiens 12, ce qu'il dit, nous a lu. À travers les uns et les autres, Dieu nous fait grandir. Nous sommes des ressources les uns pour les autres. C'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Dieu aurait pu choisir de tout faire en direct avec chacun de nous individuellement. Il a choisi que ça fonctionnait autrement et qu'en grande partie, ça passe par les uns et par les autres. Et tout cela, les Écritures, l'Esprit Saint, l'Église, tout cela est d'abord là pour nous, pour renforcer notre attachement à la personne de Jésus, pour renforcer notre confiance en lui. Non seulement en ce qui concerne la grâce qui sauve du péché, mais aussi en ce qui concerne notre vie concrète ici-bas. Dimanche dernier, je parlais à une jeune fille qui termine son doctorat. Elle va être médecin. Et elle a des questions devant elle. Où est-ce qu'elle va travailler, ce genre de choses, qu'elle va faire de sa vie. Puis je lui dis, tu pries. Puis elle me regarde. Puis je sens qu'il y a un truc et je lui dis, t'es pas convaincu que Dieu va donner quelque chose de bon. Des tas de gens pensent que s'ils prient, Dieu va leur demander des choses désagréables. Vous avez jamais rencontré ça? Des tas de jeunes se disent, si je prie pour un conjoint, il va être moche ou elle va pas être belle, je sais pas quoi. Des tas de gens prient en disant, si je prie pour que Dieu me montre le métier, ou où je dois aller, il va me mettre dans un truc compliqué. Peut-être qu'à une époque, on a un peu trop parlé de la souffrance, de la consécration qui se vivait dans la souffrance et les problèmes, et que c'est quelque chose de saint qui est dans la tête d'un certain nombre de nos jeunes. Mais c'est évidemment une chose absurde de penser ça. Alors maintenant que j'ai 58 ans, je peux vous le dire, hein, ça vaut le coup. 43 ans après ma conversion, je peux vous dire, c'est pas suivre Jésus. Jésus a un bon projet pour nous. Je ne le dis pas juste parce que c'est écrit quelque part dans les textes bibliques, mais parce qu'après ça, on peut le dire, et je pense qu'on est plusieurs ici qui peuvent le dire. L'attachement à Jésus est au cœur de notre piété. La confiance en son amour pour nous est au cœur de notre foi. Et donc, il est vital que nous prenions du temps pour lire et comprendre les paroles de Jésus. Nous faisons ça notamment dans les études bibliques à Mandres. Nous avons besoin de prendre le temps de comprendre sa parole et de l'accueillir comme pertinent pour notre vie. De laisser cette parole changer notre existence concrète, comme on l'a vu avec ces quatre pêcheurs au début de notre texte. Une confiance en ce qu'il dit, parce que c'est lui qui le dit. Même si ça nous bouscule, même si ça nous surprend. C'est sûr que la première fois qu'on lit qu'il faut aimer ses ennemis, et qu'on prend ça au sérieux, on se dit « Waouh !» Est-ce que la parole du Christ nous bouscule encore? Est-ce que nous osons demander aussi, est-ce que nous osons des choses nouvelles quand nous sommes convaincus que Jésus nous demande de les vivre? Ce quand quelque chose nous frappe dans une prédication et nous parle, nous le retenons. Ou attendons-nous la prochaine prédication qui va nous faire oublier celle d'aujourd'hui. C'est très cool, hein, dans l'église. On peut entendre tellement de choses que ça s'efface petit à petit. La couche supérieure efface la couche inférieure, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Les paroles de Jésus nous entraînent sur les chemins d'un évangile vécu dans la recherche de la paix, de la justice, de la vérité, de vivre ensemble respectueux de tous et de chacun. Est-ce qu'on s'engage là-dedans ou est-ce qu'on reste chacun dans sa maison, bien au chaud, surtout quand on n'a pas trop de problèmes, etc., etc. Les disciples ont vécu des situations stressantes qu'ils n'auraient sûrement pas vécues s'ils n'étaient pas devenus disciples. Quand vous lisez les évangiles, il n'y a pas que du merveilleux, il y a aussi du stressant, très souvent du stressant. Les disciples ont vécu des problèmes, ils ont vécu la confrontation avec les autorités, ils ont vécu la persécution, certains sont morts, persécutés. Autant de choses qu'ils n'auraient peut-être pas vécues s'ils n'étaient pas devenus disciples. Mais pour eux, c'était pas suffisant pour abandonner Jésus, parce que Jésus était plus important que tout ça. C'est pourquoi, en ce début d'année, on est encore en janvier, donc on peut y aller, je voudrais nous inviter à développer notre communion avec Jésus, avec le Père, et à développer notre obéissance, et à nous rappeler ces paroles de Paul en Galates 6, versets 7 à 8, « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Que ces paroles, cet encouragement, nous accompagnent. Et que 2019 soit l'occasion d'une relation rafraîchie et approfondie avec Jésus et des progrès nouveaux dans notre vie concrète de disciples. Amen.